Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cœurs le chant de l'agneau. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Alors, on aura besoin, effectivement, que le Saint-Esprit vienne, et peut voir particulièrement pour le prédicateur. Alors, voilà, nous allons essayer de réfléchir sur les vertus, sur les grandes vertus fondamentales, foi, espérance et charité, qui nous permettent de cheminer sur le chemin du Christ. Voilà donc le thème. Jésus, chemin de foi, de charité et d'espérance pour nous. Puisque nous sommes nés dans le Christ, nous sommes devenus des pèlerins sur le chemin du royaume et nous remercions jour après jour le Seigneur de tous les dons qui nous permettent d'accomplir notre vocation de Dieu, c'est-à-dire notre vie évangélique. Et le Seigneur nous donne donc des vertus, ces trois grandes vertus de foi, d'espérance et de charité. On pourrait prendre une comparaison, en dire que dans le fond, ces trois vertus sont comme des bâtons et qui nous aident à un certain moment pour le pèlerin qui est en marche, pour l'aider à avancer, et plus particulièrement pour celui qui, comme moi, a maintenant un âge avancé et pour lequel un bâton est souvent très utile pour maintenir l'équilibre. La canne, vous le savez, devient la troisième jambe des personnes âgées. Alors, les vertus peuvent être comparées à trois bâtons qui nous aideraient à marcher sur le chemin de Jésus, même pour les jeunes. Maintenant, ils en ont quatre. Ah, ils en ont quatre maintenant. Oui, ils avancent comme ça. Oui. Alors, écoutez, mon affaire est fausse. Allez, on arrête.
On rentre ce soir avec nos bâtons.
Alors, on va laisser les bâtons tranquilles. Donc, ce sont des vertus, ce sont des forces. Ce sont des forces que le Seigneur nous donne. Donc, la foi, c'est la force qui nous permet de croire. La vertu de charité, c'est la force qui nous maintient dans l'amour, et à cette vertu est associée la chasteté dont je parlerai. Puis la vertu d'espérance qui nous relance toujours sur le chemin en nous pointant vers le royaume, Eh bien, en entrant tout de suite dans cette réflexion, nous remercions le Seigneur de nous avoir donné ses forces pour accomplir notre pèlerinage en ce monde et le suivre sur son propre chemin. Pour nous, pour la majorité d'entre nous, nous avons traversé toutes ces années grâce à tous ces dons de vie spirituelle que nous a fait le Seigneur par le Saint-Esprit. Aujourd'hui déjà, eh bien, nous recueillons des bienfaits. Nous en recueillons déjà des bienfaits. Notre vie spirituelle est vraiment très positive. Et nous connaissons chacun la réalité d'une union à Dieu, d'une union dans le Christ. Et nous en verrons plus tard la pleine manifestation bienheureuse dans le royaume. Mais c'est déjà une réalité pour nous que toute notre vie spirituelle nous apporte déjà un véritable bonheur. Alors commençons par remercier le Seigneur de tous ses dons, et en commençant par le don de la foi. La foi, en Hébreux 11, 1, ce n'est pas la première fois qu'on a médité sur la foi, ce ne sera pas la dernière non plus. La foi fait partie donc des trois vertus cardinalis, et au livre des Hébreux, elle est définie ainsi. La foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités que l'on ne voit pas. Cette définition va lier l'espérance et la charité à la foi. Mais disons un mot sur cette définition. Nous lisons que la foi est une garantie. C'est comme quand on achète quelque chose et que s'y ajoute une garantie. Cela veut dire, s'il y a une garantie, cela veut dire que c'est sûr, qu'il y a quelque chose, que ce que la foi assure, ce que la foi propose, est une réalité, quelque chose de consistant, de vrai. La définition dit aussi que c'est une preuve des réalités qui nous sont invisibles. Alors c'est très intéressant, parce que la foi prouve que ces réalités existent. Il n'y a que l'impie qui dit dans son cœur, Dieu n'existe pas, et parce qu'il ne vit pas de la foi. Croire devient donc un acte intelligent, et même de la plus haute intelligence, puisqu'elle s'élève jusqu'à dire que Dieu est. Ce Dieu d'infinie majesté, créateur de l'univers. La foi qui prouve les réalités invisibles nous rend vraiment fils de Dieu. Elle achève l'apport de la raison qui a pour objet le monde visible. La foi, c'est donc croire. Mais on peut croire en bien des choses. Croire qu'il va faire beau temps, croire qu'une situation critique peut s'améliorer, que la santé peut revenir, qu'une opération va réussir. On peut croire aussi en une personne. Alors la foi devient confiance. Je crois que votre amitié est sincère, que vous ne me tromperez pas. C'est vrai pour des fiancés qui échangent leur consentement, que chacun restera fidèle à l'autre pour toute la vie. On voit là que ce n'est pas toujours le cas. Nous aussi, nous avons exprimé la même foi, la même confiance, quand nous nous sommes engagés à suivre le Christ d'une façon très personnelle. Cette confiance est double. C'est d'abord la confiance en Jésus lui-même, qui est un créateur parfait. Ce créateur ne fait rien à la légère. Tout est consistant de ce qu'il a créé, qu'il a construit parfaitement. jusque dans les plus petits détails. J'avais acheté cette année une variété de marguerites que je ne connaissais pas, et c'est vraiment incroyable. Le travail d'artiste pour faire des pétales qui se terminent en forme de couronne. Le Seigneur est donc un artiste et quelqu'un qui achève merveilleusement son œuvre. Le philosophe Sartre fut un philosophe malheureux, car pour lui, l'être, c'est-à-dire tout ce qui est, n'a pas de fondement. C'est une sorte d'univers blafard, pâteux, morne. Cette vision est tout à fait contraire à celle que le croyant, nous-mêmes, nous avons. D'un Dieu qui fait tout merveilleusement. Ainsi, on peut lui faire confiance. Parce qu'il a écrit « Toutes les choses sont solides. Chaque chose est selon ce qu'il en a fait. Chaque chose porte sa vérité, sa solidité. Elle peut remplir son rôle parmi les autres choses et les autres êtres. » Et les pères diront que tout cela, dans chaque chose, il y a une semence du verbe, c'est-à-dire de l'intelligence qui est présente, l'intelligence divine qui est présente et qui a été à l'origine de chaque chose, de chaque créature. Nous savons aujourd'hui que les astrophysiciens reconnaissent l'extraordinaire précision qui a permis à l'univers de se développer. Une infinie déviation, la plus infime même, dans ce développement aurait pu aboutir à la catastrophe et l'univers se serait effondré. Cela veut dire que le Créateur a mis en nous, dans notre intelligence, dans notre corps, tout ce qui était pour nous nécessaire pour que nous puissions d'abord être en vie et puis penser, réfléchir, aimer, vivre notre état de créature créé à l'image de Dieu. Donc la confiance première est donc en ce Dieu qui ne peut pas se tromper, dans ce Dieu qui est infiniment parfait. Tout en nous créant, il a mis en nous tout ce qui nous était nécessaire pour vivre notre vie d'homme en union avec lui. Et c'est pourquoi lui-même a confiance en nous. Il a confiance que nous pouvons réussir à notre tour notre vie, notre vocation chrétienne, en nous demandant de le suivre sur son chemin, ou plutôt en nous offrant à nous de le suivre. Il nous rend capables de le faire. Il a confiance en nous que nous serons capables de développer notre vie conformément à la vérité. À toutes les richesses qu'il a mises en nous. Et cette confiance nous rend responsables de nous-mêmes. Si nous tombons, c'est bien nous qui en sommes responsables de ces chutes. On n'a pas à accuser Dieu, comme tant de gens le font. Vraiment, le Seigneur a mis en nous tout ce qu'il nous faut pour réussir notre vie. Jésus nous fait confiance. Qu'on sera assez intelligent et assez courageux pour honorer sa confiance. Le deuxième aspect de la foi, c'est alors de croire en nous-mêmes. C'est important, puisque le Seigneur a mis en nous tout ce qu'il nous faut pour réussir notre vie. Avoir confiance en soi, quelle grande chose! N'est-ce pas la force de tous ceux qui ont osé entreprendre, qui n'ont pas eu peur d'avancer dans la vie? Bien sûr, avec sagesse, lucidité, en mesurant les risques de réussite et d'obstacles à vaincre dans différentes entreprises. Mais avoir confiance en soi, c'est se dire que je peux réussir, que je dois vaincre des fausses peurs qui sont toujours une certaine œuvre des démons, qui s'opposent à nos projets de vie spirituelle ou à nos projets humains. Avoir confiance en moi-même, que je suis capable d'entreprendre certains travaux d'ascèse, que je suis capable même de faire une demande, une démarche de pardon, que je suis capable de lutter contre des tendances innées en moi, des passions, que je suis capable de ne pas juger les autres. En un mot, que je suis toujours capable de faire des progrès spirituels. Nous avons les uns les autres traversé bien des moments difficiles dans notre vie, mais le Seigneur a toujours été avec nous. Il nous a appelés à le suivre, il a mis en nous tout ce qu'il nous fallait pour vaincre des tentations. Et quand nous avons expérimenté nos faiblesses, eh bien, il nous a relevés avec le sacrement de la réconciliation. Cela ne nous a pas empêchés de vivre certaines crises. Mais puisque nous sommes là ensemble, c'est la preuve qu'on peut réussir sa vie. Bien sûr, sur le chemin que nous avons pris, nous avons vu certains faire défection, quitter le chemin du Christ. Nous avons souffert de voir certains échecs dans divers domaines de la vie. Vie familiale, des ruptures. Nous l'avons vu aussi dans la vie religieuse de même, des frères et des sœurs qui nous ont quittés. On a pu se demander pourquoi ces changements d'orientation, puisque nous avions tout pour pouvoir réussir. Ça, c'est une question, bien sûr. On n'a pas à juger. C'est le Seigneur qui le sait. Mais on peut raisonnablement penser que ces échecs que nous avons pu constater ont été dus à un manque de véritable engagement dans la foi. Un véritable don de nous-mêmes dans le Christ. Lui qui vient pour prendre possession pleinement de nous-mêmes quand notre engagement est total. C'est donc cet engagement que nous avons à renouveler. Réjouissons-nous, parce que nous sommes là ensemble. En nous regardant les uns les autres, nous voyons que le Seigneur a inscrit dans chacun son amour, comme le dit la parole, en lettres de feu, qui ne nous abandonne, il ne nous a pas abandonnés, il ne nous abandonnera pas. Notre être personnel est marié dans l'amour. Nous ne nous appartenons plus. Nous sommes le bien du Seigneur. Sa gloire est réellement à l'intérieur de notre être. Certes, aujourd'hui encore, nous ne la voyons pas. Mais de temps en temps, par grâce, nous en avons une conviction, une sensation. Même si elle échappe à notre sensibilité humaine, charnelle, peu importe. Nous sommes mariés dans l'amour. Et c'est la dot que le Seigneur fait aux siens, son amour et sa gloire. C'est le Saint-Esprit qui la dispense sous forme d'art pour nous en donner la plénitude plus tard. Une fausse pudeur ou une fausse humilité voudrait nous empêcher de voir cette vérité d'union mystique, réelle, profonde, qui est en nous. Alors que, en prendre conscience, c'est décupler nos forces de joie d'aimer. Reconnaître que le Seigneur nous habite, que nous menons une vie mystique d'union. C'est se sentir aimé d'un tellement grand amour, l'amour du Seigneur qui nous habite. Alors, la foi est une force qui ferait jeter la montagne dans la mer. Ça a été la force des martyrs dont nous sommes les héritiers, qui ont pu donner leur vie par la force de la grâce de l'amour. Jésus nous a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. On lit cette extraordinaire volonté de Saint Ignace d'Antioche, qui s'en va d'étape en étape vers la mort et qui supplie les communautés chrétiennes qu'il rencontre de ne pas essayer de le libérer de ses gardes, qu'il appelle des léopards. Parce que, dit-il, il entend, lui, une voix qui lui dit « Viens vers le Père ». Une voix comme une eau qui coule dans son être. Et puis on se rappelle, entre autres, le martyr de Blandine, criant dans les douleurs de l'enfantement, dans sa prison, avant d'être jeté en pâture aux bêtes féroces. Le gardien qui se moque d'elle en disant « Si tu cries aujourd'hui, qu'est-ce que ce sera demain, quand tu seras dans l'arène, ma pauvre ?» Et Blandine de lui répondre « Aujourd'hui, c'est moi qui souffre. Demain, c'est le Seigneur qui souffrira en moi. » Que nous dit donc tous nos frères les martyrs, sinon que rien ne peut arrêter la force de Dieu. Et avec les martyrs, nous sommes à l'extrême de ce qui pourrait être, au contraire, désespoir le plus tragique qui soit, même sur le grill, Laurent pouvait encore chanter la gloire de Dieu. Alors, bien sûr, nous n'avons pas, nous, la vocation aujourd'hui d'être martyrs, on ne sait pas demain ce que ce sera. Mais nous avons en nous le même don qui a été donné particulièrement dans des heures beaucoup plus tragiques, plus difficiles à ces martyrs, à ces frères et sœurs. Nous avons ce même don, la même force de l'amour. Peut-être qu'il nous est donné pour en être convaincus de jour après jour d'en faire l'expérience, c'est-à-dire d'avoir l'audace de libérer en nous les forces de l'amour. La foi, c'est avant tout celle de l'Église. Trop souvent, on entend des personnes dire qu'elles ont la foi, mais les exemples qu'elles peuvent en donner n'ont rien à voir avec la foi de l'Église. Et elles se rebiffent, ces personnes, quand on leur montre ce qu'est vraiment la foi de l'Église, la foi de tous ces chrétiens, de tous ces martyrs, la semence, semence de foi, semence de vie dans l'Église. Et nous appartenons à l'Église. Nous sommes liés très profondément à tous ces frères et sœurs de la terre et du ciel. Peut-être que certains aspects, certains articles de la foi de l'Église peuvent nous être difficiles à croire. Et alors, il nous faut faire un acte d'humilité. Il faut faire passer la vérité objective avant notre vision personnelle des choses. Et cela nous demande de continuer à approfondir notre foi pour qu'elle soit toujours plus conforme à celle de l'Église. Le magistère nous a donné aujourd'hui un outil remarquable, le catéchisme de l'Église catholique. Et quand nous avons quelques questions à ce que nous posons, nous y trouvons les réponses authentiques. Et puis nous le savons bien que cette vie de foi doit être nourrie. Nous la nourrissons avec tous les sacrements, mais individuellement, elle demande à être nourrie de lecture spirituelle. Eh bien, notre vie de foi, de confiance, nous entraîne dans une pauvreté même de nous-mêmes. La pauvreté spirituelle qui est l'âme de notre vie religieuse. Elle libère le pèlerin d'excès de choses qui encombreraient sa démarche pour vivre une vie de foi pure. La première fonction de la pauvreté qui nous permet de vivre plus pleinement la foi est de détacher de soi-même les préoccupations futiles. Nous avons beaucoup certainement de combats, de travail à faire en ce domaine. Pour être libre dans notre lien vers Dieu. Et la pauvreté de notre âme, la pauvreté spirituelle, est une aide. Et c'est une valeur positive de dépouillement de soi pour nous libérer de tout repli sur soi, d'égocentrisme, pour une vie de plus grande communion. Elle est l'aide de la foi. Elle appartient à la foi. Elle fait partie de la foi. Elle est fondée dans la vie trinitaire. Là où chaque personne divine est pleine transparence aux autres, en se vidant chacune d'elle-même. De sorte que la Sainte Trinité est notre exemple de la plénitude de la pauvreté de soi-même. Dans la Sainte Trinité, le Père se vide totalement de lui-même pour recevoir la plénitude Il se vide pleinement de lui-même en engendrant son Fils. Et ce Fils reçoit cette plénitude qui vient du Père. Et il se vide lui-même pour redonner cet amour. Le Saint-Esprit n'est que l'amour qui vient de la source du Père et qui alors passe dans le Fils et les unit. Il est leur union, leur béatitude. Et c'est ainsi que aimer est pour nous, à l'image de la Sainte Trinité, une force qui doit nous unir aux autres. Dans ce combat, nous avons chacun à accepter nos limitations pour nous détacher de nous-mêmes. Le deuxième bâton est celui de l'amour. Et je voudrais particulièrement parler de l'aspect de l'amour qu'est la chasteté. Et il me semble que c'est cette vertu qui l'emporte sur toutes les autres. Le but essentiel de la chasteté, c'est l'amour de Dieu. Puisque Dieu est amour, c'est un aspect donc de la vie de l'amour en nous-mêmes. Le modèle de l'homme chaste, c'est le Christ lui-même. Puisqu'il est Dieu en sa nature divine et qu'il nous propose de marcher sur ce chemin. Et ensuite, c'est la Vierge Marie, c'est Saint Joseph, c'est tous les saints et saintes qui ont vécu d'amour exclusivement. Et ce que nous pouvons dire de la pauvreté qui nous libère pour aimer à la façon dont vivent les personnes divines de la Sainte Trinité est pleinement vrai aussi pour la chasteté. Jésus disait qu'il n'y a pas donc de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Il l'a prouvé par le propre sacrifice de sa vie, par l'offrande de lui-même. Pour nous, la chasteté, c'est notre réponse quotidienne à cet amour de Dieu. Elle est la force du cœur pur. Et nous savons que les pères ne cessent de rappeler la pureté du cœur. Car c'est le cœur pur qui peut vivre de chasteté. On pense le plus souvent que la chasteté est liée à la sexualité. Que le combat pour la chasteté est un combat de pureté d'abord de l'homme charnel qui exige de chasser tout effet impur de la chair soumise à la corruption, à la concupiscence. Le péché d'origine agit sur l'esprit par l'imagination, les images, les actes, par tout ce qui est recherche de jouissance égoïste. Oui, on peut penser déjà que la chasteté est ce premier combat. Mais la chasteté, c'est avant toute chose, la volonté d'aimer Dieu par-dessus tout. La chasteté, c'est le cœur pur au légiste qui l'interrogeait. Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, ton prochain comme toi-même. La chasteté, c'est donc la disposition la plus parfaite pour vivre l'amour de Dieu. Et c'est aussi la condition de l'amour fraternel. Aimer le prochain n'est pas un amour platonique par lequel on aime tout le monde sans aimer le plus proche. La lutte se porte sur des pensées corruptibles diverses qui faussent les vraies relations fraternelles. La chasteté nous fait combattre la jalousie, l'inimitié entre telle et telle personne qu'on accepte difficilement. Et la chasteté est alors la vertu du pardon. Aimer de chasteté, c'est aimer à la façon de Jésus, qui est venu pardonner, réconcilier avec le Père. Il est inévitable que nous ayons des atomes crochus avec certains et d'autres qui repoussent. Car dans nos relations, il y a tant de paramètres divers de culture, de sensibilité, d'éducation, d'expérience, que souvent les relations ne sont pas faciles. L'important, c'est de reconnaître ce que l'Église nous demande en entrant dans chaque Eucharistie, de reconnaître nos faiblesses. Saint Paul en avait fait la possibilité du salut universel. Sauf Marie a échappé à cette corruption de l'âme. Mais le baptême, le sacrement du pardon, nous rend capables de pardonner, de vivre cette chasteté du cœur qui rejoint l'amour de Jésus. La chasteté, c'est la force en œuvre de l'amour. Et particulièrement vrai au moment où nous avons à pardonner des offenses. Le pardon commence d'abord en nous, intimement, comme un apaisement du mal qui nous a été fait. C'est le temps du silence qui peut avoir une certaine durée pour que le cœur trouve sa propre paix. c'est un temps de guérison intérieure. Et nous pouvons aider les personnes dans ce cheminement vers le pardon par la prière et surtout par cette écoute du cœur chaste qui sait compatir. Alors l'écoute est comme une sorte d'éponge qui absorbe la rancune, la souffrance, le mal d'être et qui petit à petit permet la guérison. Un livre d'Éloi Leclerc, très lu, La sagesse d'un pauvre, vous le savez, avait mis en scène saint François à son retour d'Égypte et qui souffrait de voir que son œuvre avait changé d'orientation. Il a dû pardonner. Et Éloi Leclerc nous fait voir un peu tout ce processus du pardon qui a mis du temps et qui l'a accablé pendant très longtemps pour arriver en fait à se dépouiller de son œuvre et à accepter que les choses étaient ce qu'elles sont, accepter la réalité telle qu'elle se présentait, même si lui-même aurait bien voulu qu'elle soit fidèle à son intuition, à lui. Eh bien, ce processus est en fait ce que bien des personnes tombées dans la dépression connaissent pour différentes raisons. On voit que ce processus de guérison, en fait, échappe à la raison. Il faut que la personne traverse comme un désert, ce qui demande du temps et qui, d'une certaine façon, est une guérison intérieure de l'amour. Je crois qu'on peut parler là aussi de chasteté. Et puis doit arriver un jour, un déclic intérieur qui a lieu. Comme pour François et Éloi Leclerc, dans ce livre, ne sait pas comment cela s'est produit. Il le constate, il dit simplement, un jour, François se lève un matin, et puis c'est la joie qui est revenue dans son cœur. Cela veut dire que il y a à ce moment-là un don, un passage du Saint-Esprit. Cela veut dire que Jésus est dans la barque, toujours dans la barque, même au milieu de la tempête, et qu'il se réveillera. Comme le dit l'épouse du cantique, quand il le voudra, puisqu'il est le maître de la vie et de la mort. Mais nous comprenons là, dans des épreuves qui sont fondamentalement des épreuves de chasteté profonde, l'importance de la prière, bien sûr, et du silence. Le silence qui est un mystère de Job dans son épreuve. Le silence de ceux qui accompagnent la personne dans ce chemin de purification, de chasteté. Et qui laisse à Dieu le temps d'opérer ce que lui-même est en train de faire. Eh bien, le troisième bâton du pèlerin, le pèlerin de l'amour de Jésus, c'est celui de l'espérance. L'espérance peut mener le pèlerin dans deux directions. La plus immédiate, c'est celle qui mène vers le royaume, l'espérance du royaume. Et alors, l'espérance, c'est la vision de demain. C'est la foi mise en œuvre, puisque c'est la certitude de l'avenir. L'espérance est formidable. Elle dit que la vie chrétienne n'est pas un cul-de-sac, une voie sans issue, un nirvana inconsistant, une idée, un espoir pour calmer l'angoisse de l'existence, comme on le fait penser, comme on le pense parfois. C'est une réalité concrète. Et on lit que dans la parole, que la réalité, c'est ce corps du Christ réel. C'est la réalité véritable, celle qui chasse toute illusion, puisqu'elle se fonde sur la consistance des promesses divines, qui ne peuvent que se réaliser. Elle est fondée sur la vérité. Le bâton de l'espérance mène sur ce chemin de la vérité des promesses et leur réalisation. À chaque Eucharistie, nous avons déjà vécu quelque chose. Et ce que nous avons pris, ce que nous avons reçu, d'une certaine façon à titre d'art, en mangeant le corps et en buvant le sang du Seigneur, sous cet aspect, prouve que la réalité définitive va nous être donnée dans le monde du royaume. D'une certaine façon, la vertu de l'espérance est celle des personnes, pour nous tous, mais plus particulièrement peut-être pour la vertu des personnes plus âgées. La vie n'a plus grand-chose à offrir d'intéressant ou de nouveau. Le parcours de ce monde s'achève. Et si la personne ne comprend pas le sens des dernières années, elle risque de vieillir dans l'angoisse, dans la pensée de la mort prochaine. Tout au contraire. Si elle en fait un temps renouvelé d'action de grâce de ce qui a été vécu et de ce qui s'annonce, alors elle peut aborder avec sérénité ce moment où le Seigneur va se présenter pour l'emmener avec lui, comme il l'a promis, dans la vie sans fin de l'amour. On peut dire que l'espérance, c'est la force qui prend le relais de la foi pour mener vers la rencontre qui donne le sens, le vrai, unique sens à la vie. Et je célèbre l'Eucharistie chaque jour à l'Ermitage avec une amie très sainte. Que de fois me dit-elle qu'elle n'a plus d'intérêt pour ce monde et que sa vie, c'est le royaume. Que sa prière est pour que les gens connaissent que la vie sur terre n'est qu'un passage nécessaire vers le ciel. Mais alors, quelle est la raison de ce passage que nous menons, plus ou moins long sur cette terre, avant de franchir les portes du royaume des cieux ? Ne peut-on pas considérer que c'est une préparation, une vie de préparation à recevoir les biens éternels, en même temps qu'un temps obligatoire de pénitence ? Pour une purification nécessaire, que nous le voulions ou non, car nous portons le poids du péché d'origine, qui garde des effets malgré la purification du baptême. Certains enterrements ne sont pas vécus avec la joie que le défunt a terminé son séjour sur cette terre et qu'il va maintenant trouver la récompense dans le royaume. Certes, la mort de l'être cher, c'est bien sûr un scandale, et l'on comprend combien facilement le désarroi saisit l'être aimé par la perte de cet être qui maintenant n'est plus là. Et pourtant, on voit aussi ce que sont des départs vécus dans une foi vive, ce climat souverain malgré la peine, ce climat serein malgré la peine, la prière pour le défunt, la conscience que les liens ne sont pas rompus, mais qu'il faudra les vivre autrement. Et la conscience aussi que le temps mène à la rencontre prochaine. Et alors qu'elle doit être vécue avec une nouvelle ferveur. Un nouveau combat orienté vers le royaume. Une nouvelle force de la vie de prière. Voilà un premier sens de l'espérance. Et il y a aussi un autre sens pour nous aujourd'hui. C'est le sens de la vie qui participe à la vie et au salut du monde, en nous faisant offrir nos épreuves. Sur le chemin du Christ, la vie d'offrande de soi est une force et qui nous tire en avant, qui nous fait dépasser les difficultés du présent, toutes les épreuves que nous devons endurer, épreuves de relations fraternelles, épreuves de santé, en leur donnant le vrai sens. L'espérance n'est pas une fausse compréhension des difficultés, comme si tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Non, l'espérance est lucide, réaliste. Elle connaît bien les difficultés, mais elle sait les situer à leur juste place. Et elle a pour mission d'aider à la vie et au salut du monde. Jésus nous a dit, prenez mon joug est doux et mon fardeau léger. Et saint Paul disait aux chrétiens de Colosse, en ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous. Je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Eh bien, voilà un autre sens de l'espérance, qui est un don, qui est une force qui nous unit au Christ pour le salut du monde. Il faut être chrétien pour croire qu'effectivement, l'épreuve de la souffrance peut créer de la fécondité. Et récemment, je parlais encore avec quelqu'un de ce sujet difficile, et cette personne n'arrivait pas à comprendre que la souffrance pouvait effectivement engendrer de la fécondité. Et c'est vrai que c'est un mystère qui dépasse la raison, l'intelligence humaine. Et pourtant, nous expérimentons, nous, que notre souffrance, quelle qu'elle soit, nos épreuves, quelles qu'elles soient, vécues dans le Christ, sont fécondes pour la vie et le salut du monde. Et c'est une forme d'espérance, ça. De dire que ça a du sens, que ça rejoint tout ce que nous avons dit du Seigneur qui crée les choses avec consistance, et même les épreuves sont pour lui consistantes de vérité. Nous ne souffrons pas simplement pour souffrir. La souffrance a un sens. Oui. Avec la vieillesse, notre cœur nous fait souffrir à tout moment. Il semble parfois se disloquer, on ne sait pas pourquoi. Des souffrances apparaissent en nous. On a beau soigner, prendre des médicaments, la souffrance est là. De sorte que souvent, quand des personnes de mon âge se rencontrent, ben c'est un dialogue de souffrance qui se ferait. Et moi, vous dites, moi j'ai mal ici. Et la personne dit, ben et moi.
C'est un concours.
C'est un concours. Alors l'espérance. L'espérance, à ce niveau-là, c'est pas facile. Comment ?
Il y a aussi, tous les âges sont concernés,
malheureusement. Oui, bien sûr. L'espérance, c'est...
Non, je veux dire qu'il y a des épreuves pour les jeunes qui sont terribles. Ce sont des moments où
bien sûr.
On comprend rien.
Bien sûr, bien sûr.
Pour les jeunes et pour les moins jeunes.
Bien sûr, c'est pas l'autre rose, puisque c'est dans le Christ. Ben, on en parlera, on pourra échanger, on peut l'échanger tout de suite si vous voulez, effectivement. Non, non, mais ben, je termine. Hein. Je termine, de toute façon. Non, mais c'est là que je trouve que l'espérance, que l'espérance est une force aussi de silence. Et c'est pas facile. C'est pas facile de vivre pour soi-même. Des souffrances, on a toujours besoin de que les autres le sachent.
C'est un partage.
C'est plus qu'un partage. C'est pas un partage. Non, c'est pas un partage. Je crois que c'est quelque chose plutôt comme une injustice qui nous accable. Et que l'autre ne l'a pas. En ce moment, moi, mon beau-frère, effectivement, pris handicapé, etc. Eh bien, à face de lui, moi, j'ai ressenti combien j'avais à me taire, quoi. Parce que, d'une certaine façon, moi, je suis en ce moment encore alerte par rapport à lui qui ne peut plus bouger, quoi. Et je ressentais que son regard vers moi, il y a quelque chose d'une injustice. Et lui, il est comme ça pour et moi, je ne suis pas comme ça. Pourquoi ? Bon, on peut pas répondre. Mais moi, je trouve que c'est à ce moment-là que je sens qu'il y a du silence à faire, quoi. Et éviter que l'autre. Parce que l'autre vit une injustice. La souffrance est une injustice. On n'aurait jamais dû souffrir. On était né pour le bonheur. La souffrance est la sanction du péché. Au départ, Dieu nous a créés dans l'Éden, c'est-à-dire dans cette situation de bonheur dans laquelle nous aurions dû être. Le péché a complètement cassé tout cela, dans le corps et dans l'âme. Donc il y a une injustice. Pourquoi même le corps vieillit, pourquoi cet accablement sur soi-même ? C'est là où on peut parler vraiment de l'extraordinaire dont le Père nous a fait de son Fils pour nous libérer, pour nous ouvrir un chemin qui va nous sortir de cette misère et qui va enfin réaliser ce pourquoi nous avons été créés. L'espérance qui nous anime par rapport alors à ce moment-là à certaines de nos rencontres nous demande le silence. Et voilà, c'est ce que je ressens le plus dans cette participation dans le Christ à la vie et au salut du monde. Et c'est ce témoignage que nous ont laissé nos frères les saints qui ont vécu ce combat. Il y a eu, on lit parfois la vie de certains de ces grands témoins qui ont vécu dans la solitude leur dernier combat en l'offrant pour la vie, le salut du monde. Sainte Claire, et je termine par là, dans un contexte de vie différente d'une autre, bien sûr, avait la conscience de l'importance essentielle de la vocation, de sa vocation chrétienne que le Seigneur lui avait donnée. Et elle dit à ses sœurs, dans son testament, ce qui est aussi valable pour nous, notre vocation à aimer, est d'un prix incomparable. La plus grande des grâces que nous avons reçues, que nous recevons chaque jour de notre grand bienfaiteur, le Père des miséricordes, celle dont nous devons lui être le plus reconnaissant, c'est notre vocation. Nous devons en témoigner à Dieu d'autant plus de gratitude que l'état auquel il nous a appelés est plus grand et plus parfait. Et c'est pourquoi l'apôtre dit « Prenez conscience de votre vocation. » Bien pour terminer sur ce chemin, Saint Paul nous exhorte à aller de l'avant. Il était un pharisien, il était un homme irréprochable. Eh bien, tous les avantages dont j'avais reçu, dit-il, je les ai considérés comme un désavantage à cause du Christ. Et bien plus désormais, je considère tout comme désavantageux à cause de la supériorité de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Je considère tout comme déchet afin de gagner le Christ, d'être trouvé en lui, n'ayant plus ma justice à moi, celle qui vient de la loi, mais la justice par la foi au Christ, celle qui vient de Dieu et qui s'appuie sur la foi, le connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection, la communion à ses souffrances, lui devenir conforme dans sa mort, afin de parvenir, si possible, à ressusciter d'entre les morts. Non que je sois déjà au but, ni devenu déjà parfait, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, ayant été saisi moi-même par le Christ Jésus. Non, frère, je ne me flatte point d'avoir déjà saisi, je dis seulement ceci, oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l'avant, tendu de tout mon être, et je cours vers le but, en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut dans le Christ Jésus. Nous tous qui sommes des parfaits, c'est ainsi qu'il nous faut penser. Et sur ce point, vous pouvez penser autrement. Là encore, Dieu, si vous pensez autrement, Dieu vous éclairera. En attendant que ce soit le point déjà atteint, marchons toujours dans la même ligne.